Ça peut être cliché à dire, mais on ne fait pas ça pour être dans le top 10 des entreprises de l'année au niveau croissance ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, c'est juste de pouvoir vivre de notre activité, bien évidemment. Mais c'est avant tout de pouvoir mettre en avant une économie impact qui est en train de se développer, qui est en train d'émerger en France. Et pour nous, ça, c'est le plus important aujourd'hui.
Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour.
Bonjour Edouard.
Bonjour.
Et bien bienvenue sur le podcast Oser.
Merci beaucoup pour l'invitation.
J'aimerais commencer cet échange avec toi par en fait ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, nous raconter comment est-ce que tu t'engages pour un monde plus durable, et puis on reviendra ensuite sur ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé là.
Yes, super, avec grand plaisir. Alors du coup, je m'appelle Edouard, j'ai 25 ans et je suis l'un des trois cofondateurs de How I Met Your Planet, qui est un site qui centre la recherche d'emploi autour de l'impact environnemental et social des entreprises. C'est-à-dire que derrière ce projet, on a voulu faire des valeurs et des engagements des entreprises un critère à part entière de la recherche d'emploi, avec pour objectif derrière de faciliter la rencontre entre, d'un côté, les talents à la recherche de sens qui veulent s'engager dans la transition écologique, et de l'autre côté, les entreprises à impact. C'est un projet qu'on a sorti en fait à la suite de la sortie du manifeste pour un réveil écologique qui avait été créé et signé par plus de 35 000 étudiants en 2018, je crois, et qui s'était engagé à travers ce manifeste à plus travailler pour une entreprise polluante. Et nous, c'était un moment où on se posait beaucoup de questions justement sur la recherche de sens au travail, sur notre carrière. Et cet élan en fait de tous ces étudiants et ces jeunes diplômés, ça a été un véritable électrochoc pour nous. Et donc on s'est posé beaucoup de questions sur la recherche d'emploi et on est parti sur deux problématiques. La première, c'est qu'il était très difficile de trouver une entreprise qui correspondait à nos valeurs. Et la deuxième, c'est qu'on manquait d'informations sur les nouvelles opportunités qui étaient créées par la transition écologique, que ce soit sur Internet ou même durant nos formations. Et donc c'est pour ça, on trouvait qu'il manquait un outil pour répondre à cette demande naissante. Et donc, on a voulu créer une plateforme d'emploi qui met en avant les nouvelles opportunités de carrière qui sont créées par la transition écologique.
D'accord. Alors, c'était pour répondre vraiment à une demande des étudiants que vous voyez qui voulaient s'engager mais n'avaient pas vraiment de visibilité sur les emplois qui permettaient cet engagement.
C'est ça. En fait, on trouvait que c'était très compliqué, même pour nous. On sortait en fait de nos études et on trouvait qu'il était quand même super compliqué de trouver une entreprise qui nous correspondait vraiment. On avait aussi très peu d'informations, comme je disais tout à l'heure, sur en fait, la transition écologique, comment ça se traduit en termes d'entreprise, d'opportunités de job, de carrière. Et donc le fait qu'il y ait ce manifeste, ça a montré qu'il y avait un véritable élan au sein de notre génération. Et en fait, plus on a creusé, plus aussi on s'est rendu compte qu'en fait, ça touchait toutes les générations. Ce n'était pas simplement des gens de 22, 23 ans qui se posaient ces questions-là. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient un petit peu en reconversion dans leur travail, qui cherchaient d'autres entreprises, d'autres moyens d'agir à travers leur carrière, et c'est pour ça qu'on a voulu créer ce site internet.
D'accord, et alors tu disais juste avant que toi, à ce moment-là, au moment où il y a eu la sortie du manifeste des étudiants, tu te posais aussi pas mal de questions sur ta carrière, sur le sens à donner à ton travail. Comment est-ce que ces questions te sont venues? Pourquoi? C'était quoi ton parcours avant?
Ouais, alors je pense que toutes ces questions, pour moi, il n'y a pas eu vraiment d'élément de déclic, ça arrivait petit à petit. C'est-à-dire qu'après le bac, j'ai fait 4 ans d'économie dans une fac où en fait, on m'a appris pendant 4 ans des théories économiques qui étaient basées sur la croissance pour à la fin me dire la croissance infinie n'existe pas. Et donc en fait, on m'avait un peu mis une date de péremption sur toutes les théories que j'avais pu connaître pendant ces 4 ans-là. Et déjà, ça m'a vraiment marqué à ce moment-là. Et j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur notre système économique, sur les ressources qui ne sont pas tout simplement infinies. Et donc j'ai commencé à me poser mes premières questions sur ces sujets-là. Et comme je ne savais pas du tout non plus quel métier je souhaitais faire, après ces 4 ans à la fac, je suis parti en école de commerce. Et c'est là où en fait j'ai eu mes premières questions en me disant, quitte à pas avoir vraiment entre guillemets de passion ou de métier qui m'intéresse, autant en fait avoir un métier qui ait du sens, qui soit utile et qui a un impact soit pour les hommes, soit pour la planète. Et donc c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur le développement durable, sur l'inclusion, les inégalités, et savoir comment je pouvais un petit peu m'engager à travers mon travail. Mais je trouvais peu d'informations, c'était assez compliqué. Et en fait, c'était dans mes dernières années en école de commerce, quand j'étais en alternance en fait, où je me posais de plus en plus de questions effectivement sur mon métier, sur ma carrière, où là j'ai commencé à lire le rapport du GIEC, à lire... voilà, pas mal de choses sur les effets du réchauffement climatique. Et là, ça a été vraiment une grosse prise de conscience à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'était plus simplement me dire « je ne sais pas quoi faire, donc autant me rendre utile ». C'était pour moi devenu une nécessité d'agir pour le climat, pour les inégalités. Notamment en lisant le rapport du GIEC, j'ai été pendant quelques mois un peu dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'on fonçait dans un mur, que plus le mur se rapprochait, plus on accélérait. Et donc, c'était... effectivement, bah, j'étais assez sensible sur tous ces sujets-là. Parce qu'en fait, tu prends conscience d'un truc et tu as l'impression que c'est très difficile d'agir, qu'on peut quasiment rien faire. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, c'est une nécessité pour moi de m'engager à travers mon travail et de, à mon échelle, essayer d'agir en faveur d'une cause sociale ou environnementale. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir l'idée d'Away Mature Planet, que j'en ai parlé à un ami et qu'on a monté le projet. Et au final, c'est depuis que je suis sur le projet à temps plein, entre guillemets, pour moi, c'est un peu comme une thérapie par rapport à tout ça. Et le fait de pouvoir agir à mon échelle au quotidien et de m'investir dans ce projet-là, voilà, ça me montre aussi qu'il y a des possibilités aujourd'hui, qu'il y a de nombreuses choses qui se passent et qu'il est possible d'agir pour la transition écologique en France.
Alors, il y a pas mal de choses hyper intéressantes, je trouve, dans ce que tu dis. Et que ce soit au niveau de l'éco-anxiété, que ce soit le fait d'avoir ce déclic dans la lecture des rapports du GIEC, mais aussi le fait de dire « j'ai envie de m'engager par mon travail ». Est-ce que toi, en fait, avant de réfléchir à un engagement professionnel, tu étais déjà engagé au niveau citoyen, au niveau personnel, dans, je sais pas, ton alimentation, la manière de te mouvoir avec les transports? Ou autre chose, par exemple du zéro déchet, c'est quelque chose qui toi déjà te parlait, dans lequel tu étais?
Alors ça arrivait petit à petit, par exemple quand j'étais encore dans mes 4 années de fac justement en économie, où je commençais à me poser des questions sur le système dans lequel pas tout simplement on évoluait, où j'ai commencé un petit peu à changer, mais en fait ça arrivait assez tardivement, et c'est à partir de du moment en fait où j'ai lu le rapport du GIEC que j'ai commencé à voir de vrais changements déjà dans ma vie personnelle, et c'est là où je me suis dit il faut que dans ma vie professionnelle ça suive. Et c'est plus, comme je disais tout à l'heure, c'est plus juste autant me rendre utile dans mon travail, c'était vraiment devenu une nécessité pour moi, notamment par rapport à ça. Je parlais tout à l'heure du manifeste pour un réveil écologique. Moi, il y avait une phrase qui m'avait vraiment marqué, c'était à quoi cela rime-t-il de se déplacer à vélo si c'est pour se rendre chaque matin dans une entreprise qui contribue au réchauffement climatique. Et donc pour moi, en fait, la transformation dans mes engagements personnels et professionnels, ils sont arrivés un peu simultanément, et ça a été assez direct pour moi. Et ouais, cette phrase-là, en tout cas, du manifeste m'avait vachement marqué. Après, j'étais pas plus engagé que ça, c'est vrai. En fait, je travaillais dans des associations à droite à gauche, etc. Mais j'avais pas forcément un engagement pur d'un point de vue social ou environnemental. Et c'est quelque chose qui commençait à me manquer au fur et à mesure. Et puis le rapport du GIEC, ça a été un gros élément déclencheur où là, je me suis dit, il faut agir, fonce, lance-toi et puis ose, comme tu dis.
Et à ce moment-là, quand tu t'es posé la question de t'engager, que tu as commencé à réfléchir au projet « How I Met Your Planet », est-ce que tu t'es entouré d'amis? Est-ce que tu as essayé de justement rejoindre des groupes un petit peu déjà formés sur ces questions-là?
Alors effectivement, pour moi, ça a été tout de suite de m'entourer. J'ai commencé en fait à en parler à un ami qui voulait absolument se lancer dans l'entrepreneuriat, qui venait de finir ses études. Moi, j'étais encore dans ma dernière année d'alternance. Et du coup, j'ai commencé à lui parler du projet, un peu à écrire les premières bases en fait du projet. Et il s'est reconnu justement dans ce que je voulais faire. Et donc, il a dit bah, « je suis partant et on se lance ». Et pour moi, j'aurais jamais pu, bah, entre guillemets, oser ou me lancer tout seul. Je pense que c'est hyper important d'en parler autour de soi avant de se lancer, de s'entourer de personnes qui peuvent vous aider. Moi, je pense que j'aurais pas supporté, entre guillemets, la pression de lancer un projet entrepreneurial tout seul. Et pour moi, c'était primordial de tout de suite m'entourer de personnes.
Et justement, qu'est-ce que ces personnes ont dit quand tu as parlé de ce projet, que tu as commencé à parler bah, de ton anxiété, de la manière dont tu voyais le monde, que ce soit ta famille ou tes amis, tu as reçu quoi comme type de réaction?
Ça dépend. J'avais des amis qui se posaient les mêmes questions que moi, d'autres qui n'étaient pas du tout sur les mêmes sujets. Donc sur cet éveil, cette prise de conscience, c'est un peu comme tout. Tu as des gens dans ton entourage qui vont être climato-sceptiques, entre guillemets, et d'autres qui sont dans la même situation que toi. Donc ça, c'est un peu variant. Après, quand j'ai commencé à parler du projet, voilà, j'ai commencé rapidement aussi à essayer de rencontrer des étudiants avec Thibaut, qui est un des autres cofondateurs du projet. On a essayé rapidement de rencontrer d'autres étudiants pour savoir ce qu'ils voulaient, s'ils comprenaient notre projet, parce que c'était eux aussi notre cible. Et donc, on a essayé de voir directement ce qu'ils voulaient, quelles fonctionnalités ils voulaient avoir sur un nouveau site d'emploi comme le nôtre, qu'est-ce qu'ils attendaient d'une entreprise à impact, quels engagements, quelles valeurs. Rapidement, on allait parler du projet. Je pense que ça, c'est aussi une donnée primordiale, notamment quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas se dire « je garde mon idée pour pas qu'on me la pique ». Ça arrive jamais, c'est quasiment impossible. Et je pense que c'est hyper important de toujours en parler autour de soi, d'essayer de voir ce que pensent les gens du projet. Ça nous permet en fait d'améliorer notre discours, d'avoir de nouvelles idées. Et donc ça, je pense que c'est quand même super important de tout de suite aller parler de son projet, quel qu'il soit entrepreneurial, que ce soit un projet associatif, un voyage ou quoi que ce soit. Si c'est un projet marquant, je pense que c'est important de toujours en parler à des gens, parce qu'en fait, chacun va un petit peu porter sa pierre à l'édifice, va vous donner des conseils, et c'est ça qui va permettre en fait de faire grandir derrière son projet.
Et au moment où tu avais finalement réalisé ce besoin ou cette demande des étudiants pour des métiers à impact, si je peux le dire comme ça.
Carrément.
Pourquoi est-ce que tu t'es dit bah, je vais monter une boîte en fait qui va répondre à cette demande et pas plutôt bah, je vais essayer de rejoindre déjà une entreprise de recrutement et essayer de porter cette question dans quelque chose de plus grand?
Alors, effectivement, par rapport à la transition, notamment dans les carrières, il y a un peu de discours. C'est soit entre guillemets rentrer dans une boîte et essayer de changer les choses d'intérieur, soit essayer de créer une nouvelle chose à part. Moi, à ce moment-là, en fait, j'étais alternant en fait au groupe La Poste, donc qui est quand même un très grand groupe français de plus de 250 000 salariés. Donc en fait, je travaillais déjà dans un mastodonte et je pense que j'avais aussi envie de voir autre chose. Et c'est pour ça que je me suis plutôt tourné vers une nouvelle structure à part plutôt que d'essayer de changer les choses en interne. J'ai beaucoup aimé mon expérience à La Poste. Ça a été 2 ans hyper enrichissant. J'avais une très belle équipe et même j'étais plutôt fier de travailler au groupe La Poste parce que c'est quand même une entreprise qui véhicule des valeurs depuis plusieurs décennies, même plusieurs centaines d'années. Et donc en fait j'étais même plutôt fier de travailler au groupe La Poste, mais je voyais aussi ce que ça faisait de travailler dans un grand groupe, que le moindre changement parfois peut prendre des semaines voire des mois, parce que parfois il peut manquer une virgule dans un document, j'exagère un petit peu, mais voilà, il y a aussi l'effet du mastodonte où c'est parfois difficile de faire bouger les lignes. Et c'est pour ça que j'ai plutôt voulu me tourner vers une nouvelle structure, voilà, un nouveau projet qui puisse finalement concurrencer ce qui existe déjà.
Et est-ce que tu as eu des freins par rapport à ce lancement? Je veux dire, tu sors d'école de commerce, généralement les années de master en école de commerce, ça coûte quand même pas mal d'argent. C'est plutôt facile de se dire je vais essayer de trouver un emploi salarié plutôt que de se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat où on sait que c'est toujours beaucoup plus complexe de se rémunérer, en tout cas au début. Comment est-ce que tu as envisagé ça, ce saut-là et ton rapport à l'argent, justement ?
Ouais, déjà, je pense que pour commencer, je pense que c'est important de dire que déjà, il faut que tu puisses avoir la chance d'oser. C'est-à-dire que je pense que ça dépend beaucoup de ton environnement. Pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est avant tout une chance. Il faut en être conscient. Il y a quand même beaucoup d'inégalités sur le sujet. Et moi, par exemple, c'est une voie où on m'a jamais vraiment mis de barrière, où je peux m'identifier en fait à d'autres entrepreneurs. Donc déjà, ça, je pense que c'est important d'en être conscient. Après, par rapport aux besoins financiers, moi, j'avais pas d'engagement spécifique, notamment en fait, comme j'avais fait l'alternance, j'avais pas eu besoin de prendre de prêt, comme c'était l'entreprise qui m'avait payé l'école pendant mes 2 ans de formation. J'avais aussi 2 ans de salaire, j'avais le droit au chômage. Donc de ce côté-là, en fait, j'ai quand même eu beaucoup de chance d'avoir plusieurs conditions qui étaient réunies. Voilà, c'est sûr que c'est plus simple quand tous les feux sont verts. Donc moi, de ce côté-là, j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir d'engagement financier, de ne pas avoir d'engagement même familiaux, tu vois, de ne pas avoir d'enfants ou quoi que ce soit. Et donc là, de ce côté-là, quand même, ça te fait si pas mal pour te lancer. Après, au niveau des freins, tu en as toujours. Bah, déjà, 2020, c'est quand même évidemment un frein quand même pour lancer son projet, surtout quand tu es dans le recrutement. Forcément, il y a pas mal de boîtes qui ont dû reporter, geler leur recrutement. Donc ça a mis un petit frein aussi à notre développement, même si on a pu faire grandir le projet. Évidemment, il y a eu un petit coup d'arrêt, notamment sur le premier confinement. Après, je dirais aussi que c'est pas facile de se lancer en entrepreneuriat parce que tu as l'impression que tu dois réapprendre tous les jours des choses. C'est-à-dire que depuis que je me suis lancé, j'ai dû apprendre plein de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie marketing, communication, et j'ai dû apprendre plein de choses en marketing digital, en acquisition, que je ne connaissais pas du tout avant. J'ai dû aussi apprendre plein de nouvelles choses sur le web design, sur l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle le UX, UI design, ce que je m'occupe aujourd'hui d'améliorer les fonctionnalités sur notre site. Donc ça, voilà, c'est plein de choses en fait que tu dois apprendre, que tu n'as pas vu pendant ta formation. Et donc, ce n'est pas vraiment un frein. Mais voilà, c'est aussi un peu les petites barrières parfois que tu peux avoir, et effectivement ça te rajoute un peu de challenge, un peu de complexité au quotidien parce que tu dois réapprendre pas mal de choses. Ça c'est évidemment pas facile. Et puis si on devait voir un dernier frein, je dirais que c'est quand même l'expérience. C'est peut-être un frein en fait que je me suis mis tout seul, c'est-à-dire que j'avais 24 ans quand on a lancé le projet, je sortais de mes études. Donc tu peux parfois ne pas te sentir légitime dans certaines situations. T'es jeune, parfois on donne des conseils à des profils plus expérimentés. Tu veux aussi faire face à des entrepreneurs qui sont plus chevronnés que toi. Et ça, c'est pas toujours évident. Et du coup, c'est plus un frein en fait que je me suis mis tout seul. Et ça, après, il faut juste oser tous les jours se lancer des défis aussi et de se dire c'est pas grave si entre guillemets je suis jeune, je suis un peu moins expérimenté que d'autres personnes. Il faut oser, il faut se lancer, et ça c'est un frein entre guillemets que je me mets de moins en moins au quotidien, mais je sais que je dois encore un petit peu progresser là-dessus.
Alors c'est intéressant pour moi de faire cette interview avec toi parce que c'est la première fois dans le podcast sur cette saison 1 où généralement je parle de changement, que j'y suis avec quelqu'un qui s'est lancé directement à la fin de ses études dans l'entrepreneuriat à impact ou dans l'emploi à impact tout court. Et ce qui est marrant dans la manière dont tu expliques les choses, c'est que à la différence des personnes que j'ai pu interviewer qui ont, on va dire, entre 30 et 50 ans et qui ont d'abord dû faire face à une sorte d'acculturation pour pouvoir se lancer et déconstruire beaucoup de choses qu'on leur avait mis dans la tête, qu'on leur avait appris. Toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ce passage où finalement tu t'es dit j'ai besoin de déconstruire en fait mon rapport au travail, mon rapport à un salaire, mon rapport à mes amis, à une construction sociale qui m'habite, mais que finalement tu as été beaucoup plus libre de te lancer en fait. Mais peut-être que je me trompe.
Moi, c'est sûr, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de conditions qui étaient réunies pour me lancer, et ça aussi, faut en être conscient. Et pareil pour les cofondateurs avec qui je me suis lancé. C'est-à-dire qu'on a quand même des conditions qui étaient réunies. Quand tu n'as pas d'engagement familial ou financier, c'est aussi plus simple de pouvoir te lancer. Après, il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui ont des prêts étudiants à rembourser. Forcément, c'est une charge supplémentaire. Moi, de par l'alternance, j'ai aussi cette liberté-là. Donc, effectivement, tu parlais de liberté tout à l'heure. J'étais dans une situation où c'était quand même plus facile de me lancer, même si t'as pas la sécurité d'avoir un CDI ou quoi que ce soit, et ça peut être gênant, par exemple, pour trouver un appartement, une location, quoi que ce soit. J'avais quand même cette liberté-là. Après, je me suis pas posé tellement de questions par rapport à tout ça, par rapport au regard des gens, ce que vous pouvez y penser, par rapport même à la sécurité, du CDI, de l'emploi, comme je venais de dire. Je me suis mis aucune barrière par rapport à ça. J'ai juste voulu me lancer. Et surtout, je voulais juste m'épanouir dans ce que je faisais. Je trouvais ça super intéressant. Parce que je me rendais compte que si je m'épanouissais pas dans ce que je faisais et si je me sentais pas engagé au quotidien, je me mangeais une certaine pression. Et c'était beaucoup plus difficile pour moi d'être heureux au quotidien. Et depuis que je suis passé sur How I Met Your Planet, je me sens beaucoup plus heureux, même si c'est évidemment pas toujours facile de se lancer en entrepreneuriat à notre âge, etc. Je me sens beaucoup plus heureux au quotidien, épanoui dans ce que je fais. Et pour moi, c'était la seule chose qui comptait. Et c'est pour ça que je pense que je me sentais peut-être plus libre que d'autres et que je me suis pas trop posé de questions. Moi, ce que je recherchais, c'était être épanoui dans ce que je faisais et avoir un impact. En fait, je pense que les deux sont hyper liés pour moi. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit juste fonce, essaye, c'est maintenant ou jamais. Et je l'ai un peu vu comme ça. Et pour moi, c'était t'as pas d'engagement, essaye maintenant. Effectivement, c'est pas quand tu auras une famille ou voilà que tu pourras te lancer. Pour moi, c'était un peu la situation idéale. Donc, je me suis juste dit fonce, vas-y, te pose pas de questions. Et je ne regrette pas du tout mon choix aujourd'hui.
Ok. Et je te propose qu'on discute un petit peu de How I Met Your Planet, justement, et comprendre l'envers, j'allais dire, du décor. On a vu que tu cherchais à répondre à une problématique des étudiants, ou en tout cas à un besoin des étudiants, de trouver des travails avec du sens. Et qui permettait de s'engager au niveau de la transition écologique. Mais alors, une question qui me turlupine un peu, c'est quid des entreprises, en fait? Comment est-ce que ça s'est passé quand tu leur as parlé du projet? Quelle a été la réaction par rapport à j'imagine, les questions que tu pouvais poser sur les emplois qu'ils avaient en RSE ou en rapport avec la transition de leur modèle? Comment est-ce que tu sélectionnes, finalement, aussi, les postes pour valider que quelque part ce soit pas un poste greenwashing ou que ce soit quelque chose qui aille réellement dans le sens d'une transition?
Ouais. Alors par rapport à ça, déjà, nous effectivement, tu parlais tout à l'heure de dire pourquoi ne pas changer les choses directement dans les entreprises. Nous au début, on s'est posé la question de est-ce qu'il faut juste faire les entreprises à impact ou aussi ouvrir aux entreprises qui se transforment. Ouvrir aux entreprises qui se transforment, c'était très compliqué, notamment au début. Ça demande une analyse beaucoup plus poussée, il y a beaucoup plus de problématiques de greenwashing. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu faire pour l'instant et qu'on aimerait bien développer plus tard. Nous, on s'est vraiment concentré sur les entreprises à impact. Quand on parle d'entreprises à impact, on parle de toutes les entreprises qui ont été créées pour résoudre un enjeu social ou environnemental et qui ont intégré ces enjeux à leur business model. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tech for good, d'économie circulaire, de conscience RSE, de mode durable. Voilà, c'est tous ces secteurs qui essaient de changer les choses, qu'on met en avant à travers la plateforme. Et voilà, le projet est vraiment parti de là, de vouloir mettre en avant les entreprises à impact. Il y a une toute nouvelle économie qui est en train de se développer en France et dans le monde, et donc on voulait mettre la lumière sur toutes ces nouvelles entreprises. Il y a quelques années, il y a eu la transformation digitale qui a en fait créé plein de nouvelles opportunités de carrière. Et nous, on s'est dit que 10-15 ans après, il y avait exactement la même chose qui se passait pour la transition écologique et solidaire en France et qu'il fallait mettre ça en avant. Et pour nous, c'était super important. Après, tu parlais justement d'aller voir les entreprises, comment elles ont réagi. Écoute, elles ont vraiment bien compris le projet. Pour la plupart, les gens qui bossaient dans une entreprise à impact nous disaient justement « Ah, j'aurais adoré avoir un site d'emploi comme le vôtre quand je cherchais un emploi il y a 2, 3, 5, 10 ans. » C'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc, ça nous a pas mal encouragés. Après, bah justement aussi, on a fait des petites erreurs, mais je parlais tout à l'heure de toujours parler de son projet, aller à la rencontre de sa cible, essayer de comprendre leurs besoins. Nous, on l'avait fait beaucoup du côté candidat et peut-être pas assez du côté entreprise au début. Et notamment pour évaluer ton business model, puisque ce sont les entreprises qui payent pour être sur notre site. Voilà, aussi au niveau des fonctionnalités, on n'avait peut-être pas fait au début une enquête assez importante qu'on a dû refaire après. Et donc ça nous a mis un petit frein aussi au début parce qu'on avait mal évalué ce besoin-là et on a dû après se resituer. Mais bon, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Tu changes souvent de business model, de stratégie, etc. Mais sinon, on a eu un très bon accueil. Après, comme je disais tout à l'heure, effectivement, en 2020, ça a mis un petit stop au niveau des recrutements avec les confinements, etc. Ça n'a pas été toujours hyper simple, mais on a eu un super accueil de la part des entreprises. Elles ont compris notre projet. Et surtout, pour elles, c'est très important de pouvoir trouver des candidats qui partagent leurs valeurs, qui vont les rejoindre pour résoudre un enjeu social environnemental. Et ça, c'est pas toujours facile de trouver la bonne personne qui va totalement matcher avec les valeurs de l'entreprise. Et du coup, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Et c'est ça aussi qu'elle recherche à travers AOML sur Panet. Et puis, en parallèle de ça, en plus du site d'emploi, on a également lancé une activité de recrutement qui est assez appréciée aussi de la part des entreprises. C'est-à-dire que là, on a lancé une offre de chasse pour les entreprises qui vont rechercher plutôt des profils spécifiques ou expérimentés. Et du coup, on va s'occuper pour les entreprises du sourcing et de la qualification des candidats, un peu comme un cabinet de recrutement classique. Donc, c'est une activité qui est vraiment complémentaire au site d'emploi. Et ça nous permet d'offrir un service un peu 360 à l'entreprise et d'avoir plusieurs offres et de vraiment s'adapter aussi à leurs besoins en termes de recrutement. Et nous, derrière, notre volonté sur cette activité de recrutement, c'est de remettre au cœur du processus de recrutement des points qui ont été pour nous trop souvent oubliés, c'est-à-dire la personnalité, l'engagement et surtout le matching avec la culture d'entreprise et ses valeurs.
D'accord, et parce que c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux entreprises à impact. Quelle est en fait leur problématique à elles dans le recrutement de jeunes diplômés ou de diplômés, hein, je vais dire, un peu plus déjà avancés dans leur voie professionnelle, c'est le fait de rencontrer des personnes avec qui il y a une adéquation au niveau des valeurs de l'entreprise principalement.
Oui, c'est ça. Après, comme toute entreprise, ils vont aussi évidemment chercher des compétences. Et nous, ça nous est déjà arrivé, par exemple, sur des postes de jeunes diplômés business developer, une entreprise qui nous dit nous, ce qui compte, c'est que le candidat ils comprennent bien notre mission, nos engagements, notre valeur, comment on fonctionne, pourquoi on a été créé, et ensuite on le formera sur les enjeux commerciaux. Voilà, après, il faut qu'il y ait évidemment quelques appétences sur ces sujets, etc. Mais le message sur, par exemple, ce poste-là, c'était vraiment, d'abord, on veut un matching sur les valeurs, sur comment se comporte la personne, quel être humain, tout simplement, c'est bête à dire, mais quel être humain est cette personne, et ensuite on le formera pour un poste de jeune diplômé. Et ça, cette approche-là, je la trouvais super intéressante. Et effectivement, après, t'as plusieurs choses. T'as des entreprises qui ont besoin d'être mises en valeur parce que sur d'autres sites comme Welcome to Jungle ou Jobteaser, elles vont être une entreprise parmi tant d'autres. Et donc, ça va être difficile pour un candidat de la trouver. Il y en a d'autres aussi qui aiment aussi la façon dont on met en avant toujours leurs engagements, leurs valeurs. Et c'est plus simple aussi pour les candidats de s'y retrouver et pour l'entreprise de déceler ce matching de valeur dans la candidature. Nous, c'est ce qu'on explique souvent aussi aux candidats par rapport à ça. Valider les compétences, mais surtout derrière, c'est posez-vous les bonnes questions sur le pourquoi vous voulez travailler dans une entreprise d'impact. C'est-à-dire qu'on a tous une histoire, un déclic, un cheminement, etc. C'est important de l'identifier et de bien l'expliquer aux entreprises. Et ensuite, de bien comprendre la mission de l'entreprise, toujours ses engagements, ses valeurs, entre guillemets son combat, pourquoi elle a été créée, de quelle cause environnementale, sociale elle est partie. et de bien identifier ces deux sujets-là pour ensuite savoir pourquoi moi et l'entreprise, ça va matcher. Et ça, c'est ce que recherchent beaucoup les entreprises aujourd'hui qui sont sur notre site. Et c'est ce qu'on conseille vraiment aux candidats de mettre en avant dans leur candidature.
Du coup, de ce que je comprends, vous essayez de changer aussi le modèle de mise en avant des entreprises, donc de ne pas avoir forcément trop d'entreprises représentées pour qu'il y ait quelque chose de lisible. Et aussi, comment est-ce que vous sortez de cette dynamique un peu de plateforme de bidding, on va dire, où finalement, vu que ce sont les entreprises qui payent, c'est celle qui met le plus sur la table, qui est le plus visible et qui finalement peut rendre les positions de certaines entreprises qui ont des postes très intéressants mais pas forcément beaucoup de moyens absolument non visibles aux yeux de certains candidats.
Alors nous, par rapport à ça, effectivement, on a un abonnement qui dépend de la taille de l'entreprise. Mais par exemple, sur notre plateforme, aucune entreprise n'est plus mise en avant qu'une autre. Quelle que soit la taille de l'entreprise, toutes les entreprises sont traitées de manière égalitaire sur notre plateforme. Et ce n'est absolument pas une question d'argent qui rentre en jeu ou quoi que ce soit. Notamment, nous, on fait un business model selon la taille de l'entreprise, ce qui permet même aux très petites entreprises qui sont en train de se créer de pouvoir recruter facilement des stagiaires, des jeunes diplômés, et d'être mise en avant comme une entreprise qui a 250 salariés ou 300 salariés. D'où il y a vraiment un sujet d'égalité là-dedans qui est hyper important. Et donc, ce n'est pas celle qui met le plus sur la table qui va être le plus mise en avant. Ça, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a cette gamme de prix selon la taille d'entreprise. C'est pour permettre à toutes les entreprises à impact d'être sur notre site facilement et de pouvoir rejoindre notre communauté d'acteurs à impact. Ça, c'est un point qui est primordial pour nous. Et jamais il y aura une mise en avant d'une entreprise plus qu'une autre par rapport à une reconnaissance d'entreprise ou juste à une question d'argent. Pour nous, ça peut être cliché à dire, mais on ne fait pas ça pour être dans le top 10 des entreprises de l'année au niveau croissance ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, c'est juste de pouvoir vivre de notre activité, bien évidemment. Mais c'est avant tout de pouvoir mettre en avant une économie d'impact qui est en train de se développer, qui est en train d'émerger en France. Et pour nous, ça, c'est le plus important aujourd'hui.
Ben justement, c'est un petit peu là où je voulais en venir avec ma question et ton rapport justement à la croissance de ton entreprise, ou pas d'ailleurs. En fait, comment est-ce que tu perçois un petit peu l'avenir et comment tu te projettes avec How I Met Your Planet par rapport à un autre modèle en fait de croissance ou de construction de ton entreprise qui correspond plus à tes valeurs d'économie à impact. Comment est-ce que tu comptes t'en sortir par rapport à ça et à d'autres acteurs qui justement autour essaient de manger et de grignoter des parts de marché et se voient toujours comme des grosses entreprises en croissance?
Alors au niveau de notre business model, déjà c'est vrai qu'on a l'avantage entre guillemets de ne pas vendre un produit, donc on n'est pas dans une notion de vendre à tout prix un produit, on est vraiment dans une notion de service. Donc là, par rapport à ça, par rapport à des questions d'éthique, on fait vraiment attention à l'impact d'un point de vue numérique, en fait, nous surtout. Et donc, on fait super attention à l'impact carbone de notre activité. On évite de faire, par exemple, des Google AdWords au maximum parce que c'est des publicités qui sont extrêmement polluantes. Donc voilà, notre but, c'est évidemment pas la croissance à tout prix, mais c'est évidemment de vivre de notre activité. Ça, c'est un point primordial. Mais on essaie de faire attention au quotidien, dans la manière dont on fonctionne, d'avoir le plus petit impact possible. Et ça, évidemment, c'est primordial dans nos manières de gérer, dans le choix de nos partenaires aussi. Au-delà des entreprises, on travaille avec nos entreprises qui payent pour être sur notre site. On travaille aussi avec d'autres partenaires en parallèle et on fait toujours hyper attention à la sélection de ces partenaires-là. C'est tout un écosystème qu'on essaie de créer autour de nous et évidemment c'est que des questions auxquelles on fait attention. Après le sujet effectivement la croissance est hyper complexe, on parle beaucoup de décroissance, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait 4 ans d'économie où en fait à la fin on m'a expliqué que toutes les théories en fait avaient une date de péremption et que la croissance infinie n'existait pas. C'est une question qui est hyper complexe et j'ai absolument pas la réponse. J'essaye au maximum de me renseigner sur ces questions, de comprendre quel modèle alternatif on pourrait avoir au modèle de croissance qui finalement a construit notre système économique, bien évidemment. On ne sortira pas de ce système de croissance du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a des modèles alternatifs qui sont possibles? Je ne sais pas du tout. C'est voilà, une question qui est très complexe. Comment un système de décroissance pourrait se mettre en place? Voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont hyper complexes. Mais c'est des questions à se poser. Et effectivement, nous, ça rentre aussi dans notre scope de réflexion pour développer l'activité d'Hawaii Matcher Planet.
Si on se tourne un peu du côté des conseils ou du message que tu voudrais délivrer soit aux jeunes diplômés, soit aux diplômés avec un peu plus d'expérience qui souhaitent s'engager, est-ce que justement tu aurais quelque chose de particulier à leur dire?
Ouais, bah, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de freins, de barrières. Nous, quand on fait des interventions dans les écoles, qu'on accompagne des candidats vers des entreprises, on a vraiment... Un sujet, c'est ne vous mettez pas de barrières, ne vous mettez pas de freins, foncez, allez-y. C'est-à-dire que parfois, j'ai des jeunes diplômés qui me disent, j'ai fait tous mes stages dans des entreprises qui sont pas très vertueuses, qui sont pas du tout sur les enjeux de la transition écologique, et du coup, je n'ose pas aller postuler dans une entreprise à impact. C'est pas du tout le message qu'on veut dire. Nous, on a un message, c'est qu'importe vos compétences, vous pouvez les mettre au service d'une entreprise à impact. C'est-à-dire qu'une entreprise à impact, elle va pas, entre guillemets, vous punir parce que vous avez fait 3 ans dans telle ou telle entreprise. Ce qui compte, c'est de mettre en avant, en fait, votre changement de mentalité, montrer qu'aujourd'hui, vous souhaitez travailler dans une entreprise à impact, que vous avez une vraie réflexion, et plutôt de mettre en avant vos dernières expériences en disant, voilà, j'ai pu acquérir telle et telle compétence. Aujourd'hui, j'aimerais mettre ces compétences au service d'une entreprise à impact. Et donc, c'est vraiment le conseil principal qu'on peut donner aux candidats. C'est surtout ne vous mettez pas de barrières. Allez-y, foncez, tentez votre chance. Effectivement, il y a certains métiers un petit peu particuliers, comme par exemple, je ne sais pas, consultant en RSE, où là, peut-être il va falloir avoir une certaine expérience, il va falloir peut-être avoir une certaine formation. Mais à l'inverse, par exemple, pour prendre l'exemple de toutes les personnes qui travaillent dans le marketing digital, les entreprises à impact, elles cherchent aussi des personnes dans ces domaines-là. Et donc, en fait, à partir du moment où vous avez pu développer ces compétences-là dans d'autres entreprises et qu'aujourd'hui, vous souhaitez travailler dans une entreprise à impact, il ne faut surtout pas se mettre de barrières et candidater et foncer, oser y aller. Ce ne sera pas du tout un problème pour vous dans votre candidature si vous montrez bien que vous avez eu ce changement de mentalité et qu'aujourd'hui, vous voulez consacrer votre carrière aux entreprises à impact. Ça, c'est vraiment le conseil principal qu'on donne.
D'accord, donc c'est assez différent de ce qu'on a pu voir dans le milieu des ONG ou associatifs, où au final, quand on était dans le privé, c'était très difficile de passer le cap et de se faire recruter dans ces milieux-là sans expérience préalable. Et on voyait qu'il y avait quand même deux mondes qui fonctionnaient un petit peu en silo. Au niveau des entreprises à impact, tu dis, voilà, c'est quelque chose qui est plus ouvert justement parce qu'on est dans l'ordre de l'entreprise toujours et que du coup, il y a moins de... Enfin, c'est beaucoup plus facile d'avoir des transfuges, entre guillemets.
C'est ça. Bah, tu sais aussi, il y a aussi dans ces entreprises, les personnes qui ont créé ces entreprises-là, elles travaillent dans une industrie... classiques, en fait, elles se sont rendues compte des excès que pouvaient avoir les entreprises dans lesquelles elles travaillaient. Et c'est pour ça qu'elles ont voulu créer une entreprise vertueuse derrière. C'est parce qu'elles ont vu l'impact environnemental et social de l'activité de leurs entreprises qu'elles ont voulu rebasculer vers un business model plus vertueux et qu'elles ont lancé leur boîte à impact. Donc, en fait, ces entrepreneurs-là qui ont eu ce changement de mentalité à un moment de leur carrière, de leur vie, ne vont pas pénaliser ceux qui ont le même à quelques années d'écart et qui veulent venir travailler dans leurs entreprises-là. Et je pense que c'est ça aussi peut-être qui change un petit peu. Après, ces entreprises-là, elles vont recruter des gens qui, depuis 10 ans, sont investis peut-être dans des ONG, dans l'ESS, d'autres qui ont travaillé 10 ans dans un grand groupe. Voilà, ce qui compte aussi, c'est derrière, on parlait beaucoup, mais de ce matching de valeurs qui est important. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il est important de ne pas se mettre de barrières. Et qu'aujourd'hui, les entreprises à impact, elles ne vont pas mettre de côté des candidats de par leur parcours ou parce qu'il y a un tel stage dans telle entreprise, X ou Y. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment important de prendre conscience de ça aussi et de ne pas se mettre de barrière par rapport à ça.
Et alors, j'ai une dernière question par rapport à ce que tu disais autour du marketing ou du marketing digital en règle générale. J'avoue que de manière personnelle, j'ai quand même pas mal de mal à associer en fait le travail d'entreprise à impact avec la promotion de ses activités de la même manière que le font des entreprises, on va dire, un peu classiques, en utilisant Google, Facebook, etc. Et des méthodes qui sont quand même extrêmement intrusives pour la santé psychologique des gens et leur vie en règle générale. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas une évolution à chercher aussi dans la manière dont on communique quand on est une entreprise à impact? Ou est-ce que en fait il faut justement prendre ces outils et les utiliser au service d'une autre économie?
Si, carrément, dans les entreprises à impact, en règle générale, une entreprise ne vend pas ou ne fait pas de la publicité comme elle le ferait dans une entreprise entre guillemets classique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le vendre à tout prix. Il y a vraiment un changement de mentalité de ce côté-là. Et ça aussi, il faut l'appréhender quand on est candidat et s'en rendre compte aussi. C'est pas forcément évident là-dessus de pouvoir s'informer sur ces sujets-là. Mais effectivement, une entreprise à impact ne vend pas comme une entreprise classique. Après, voilà, faut pas oublier aussi quand on, par exemple, on vend, du produit PSL éthique et responsable. Faire de la pub, ça permet aussi de faire connaître au grand public son produit et que le grand public remplace son produit qui est néfaste pour l'environnement, la planète et peut-être aussi les travailleurs qui ont créé ce produit-là pour le remplacer par un produit vertueux. Donc c'est vrai qu'il y a ce juste milieu à trouver, mais il est important aussi de se faire connaître. Nous, par exemple, c'est vrai que le plus on a de candidats sur notre plateforme, le mieux c'est, parce que c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de candidats qui vont travailler dans une entreprise à impact, qui vont s'engager dans la transition écologique. Donc de ce côté-là, évidemment, pour nous, c'est très important aussi de pouvoir communiquer, de faire de la pub. Après, il faut trouver le juste milieu entre les résultats et la manière dont on fait, et surtout d'un point de vue éthique, sur le traitement des données. Nous, c'est des points sur lesquels on fait évidemment hyper attention. On est évidemment au carré sur tout ce qui est RGPD. On n'a pas du tout envie de faire de la pub ciblée ou des choses comme ça sur une plateforme. C'est pas du tout vers ce type de business model qu'on tend. Mais malgré tout, il faut qu'on communique aussi pour avoir un plus grand nombre de personnes qui souhaitent travailler dans une entreprise d'impact. Au quotidien, c'est évidemment ma mission en tant que responsable marketing du projet. Mais comme je disais tout à l'heure, par exemple, on fait attention à Google AdWords, on fait attention à la publicité payante qu'on fait sur les réseaux sociaux, et aussi au nombre, par exemple, c'est tout bête, hein, mais au nombre de mails qu'on envoie par jour, au nombre de publications qu'on fait sur les réseaux. Aujourd'hui, il faut juste être conscient que dès qu'on respire, en fait, on pollue. J'exagère un peu, c'est triste à dire, mais c'est un petit peu ça aujourd'hui, c'est qu'importe notre activité, en fait, on a forcément un impact d'un point de vue bilan carbone. Donc c'est aussi faire hyper attention à tous ces sujets-là, de dire ne pas envoyer trop de mails, ne pas faire trop de publications sur les réseaux. Ça peut paraître bête, ça peut paraître peut-être insignifiant, mais c'est malgré tout super important aussi, même pour nous, dans la façon dont on travaille au quotidien.
Eh bien, Edouard, je te remercie beaucoup pour ton témoignage sur ton engagement et bravo pour ce que vous faites avec How I Met Your Planet. Je trouve que c'est franchement très cool et j'essaie de relayer à chaque fois qu'il y a des nouveaux posts que je vois passer sur les réseaux et notamment sur LinkedIn. Parce ouais. qu'effectivement, je trouve aussi autour de moi qu'il y a plein de gens qui cherchent des emplois avec plus de sens pour justement essayer de faire changer les choses et que vous y participez grandement. Donc encore une fois, bravo et puis à très bientôt.
Ouais, écoute, merci à toi. Merci aussi de mettre en avant comme ça des projets vertueux, des gens qui ont été en réflexion, qui essaient de changer de vie et qui se posent les bonnes questions. Ça aide aussi les gens à pouvoir s'identifier à des changements de carrière. Moi, le premier, quand je me posais des questions aussi, j'écoutais des podcasts, je regardais des reportages. C'est important de voir que d'autres le font et qu'on peut le faire. Donc merci aussi pour cette mise en avant pour How I Met Your Planet et aussi en règle générale pour les gens qui se posent des questions et qui veulent aussi trouver des modèles et savoir comment faire derrière. Donc merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez !